Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Le cajou n'est pas notre produit de consommation de base. Les producteurs commencent à se rendre compte que ce n'est pas seulement les noix que les gens recherchent.
Et ce qu'ils recherchent, c'est la coque des noix de cajou. Est-ce que vous le saviez, vous, que cette coque des noix de cajou était utilisée pour fabriquer notamment un baume qui sert à l'industrie aéronautique? Vous allez le découvrir avec nous en allant dans une usine du pays d'Afrique qui commercialise et qui transforme cette noix de cajou. C'est au Bénin, grâce à Delphine Bousquet, sous les radars ce soir, et Hélène Roussel, vous l'avez entendu, en Inde, en Islande et au Pakistan. Le Monde selon Trump, saison 3, avec Grégory Philippe. C'est la campagne de Donald Trump pour 2020 quasi officiellement lancée. Vous verrez aussi que le dernier candidat démocrate en date, Bill de Blasio, avec lui l'ambiance est moyen bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et ce qui monte en ce moment à 5 jours des européennes, ça n'est pas la conscience écolo, nous dira Jean-Marc, mais c'est bien le climato-scepticisme revendiqué et assumé. En attendant, nous allons en Iran, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Après une semaine et même plus d'ailleurs de tensions violentes entre les États-Unis et l'Iran, le président américain a joué ce dimanche sa partition favorite. Ouvrez les guillemets, si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis. Fermez les guillemets, évidemment. C'est un tweet qui date donc de ce dimanche. Les mots de guerre sont prononcés à nouveau. Nouvelle guerre au Moyen-Orient, donc cette fois contre l'Iran. Est-ce bien raisonnable? Bonsoir Armin Arefi.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous travaillez notamment pour Le Point. Vous avez écrit tout récemment Un printemps à Téhéran, c'est publié chez Plon. Est-ce qu'on est en train de jouer à mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud ou pas? Est-ce que c'est ça le jeu qui est en train de se jouer entre l'Iran et les États-Unis?
Je pense que ça fait de toute façon un an que la situation est de plus en plus
depuis que les accords
grave,
ont été rompus.
Depuis justement que Donald Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord, je le rappelle, qui avait été endossé par l'ONU. Et c'est vrai qu'on assiste là à une séquence extrêmement tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les deux pays. Depuis l'annonce de l'envoi d'un porte-avions, l'USS Abraham Lincoln, dans les eaux du Golfe Persique. On y reviendra. Donc là, effectivement, on assiste à une sorte de jeu de poker menteur entre les deux pays, mais il faut quand même bien regarder que sur la séquence, c'est-à-dire depuis 10 jours, ce sont les Américains qui font monter ou qui font augmenter en tout cas la tension. Avec coup sur coup, donc, l'annonce de l'envoi d'un porte-avions, d'une batterie de missiles Patriot, à quelques kilomètres des côtes iraniennes. Il faut savoir également que celui qui a fait cette annonce n'est pas Donald Trump, c'est John Bolton. Qui est John Bolton? C'est quand même
conseiller
à la sécurité nationale, l'un des les principaux artisans de la guerre en Irak. En 2003, pour laquelle d'ailleurs il ne s'est jamais excusé, il n'a jamais exprimé aucun regret.
Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous posais la question, parce que effectivement, Bolton est là, Bolton porte la guerre en Irak, Bolton dit très concrètement que de toute façon, il veut une guerre, en tout cas, il l'exprime quasi aussi directement que ça, et en même temps, on est vraiment dans la stratégie pré-irakienne, là, en fait, dans une espèce de jeu de poker menteur, comme vous le disiez, effectivement, voire des mensonges. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'on a, dimanche dernier, une mystérieuse attaque, mystérieux sabotage, des attaques de drones en Arabie Saoudite, on se demande si tout ça est vrai, en fait, ou si ça fait partie de la stratégie.
Alors, effectivement, John Bolton a pour lui, justement, les mensonges des armes de destruction, destruction massive en Irak qui n'ont jamais existé.
Ouais, ça s'est signé,
Maintenant, il faut savoir que là, on a, au sein de l'administration Trump, des voix discordante. Donald Trump, lui, n'a jamais caché qu'il s'était retiré de l'accord. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un autre accord, un peu sur le modèle nord-coréen, un accord global avec l'Iran. Donc sa stratégie, en fait, c'est de mettre l'Iran à genoux pour les contraindre, pour négocier en position de force, comme avec Kim Jong-un, et les contraindre à accepter un accord sous ces conditions.
Mais lui dit « je ne veux pas la guerre ». On a l'impression que la colombe là-dedans, c'est Trump, en fait.
Il est
cerné par les faucons, et lui, c'est le seul à dire « je ne veux pas la guerre », ce qui est quand même assez paradoxal.
Les Iraniens le disent également, d'ailleurs depuis le début, mais Donald Trump, justement, c'est une de ses promesses de campagne, à savoir qu'il souhaitait se désengager du Moyen-Orient et surtout retirer ses troupes. Il a d'ailleurs déjà commencé en Afghanistan, et en Syrie. Donc on voit mal un Donald Trump justement souhaiter renvoyer, comme le New York Times l'a relevé, un plan qui visait à envoyer 120 000 soldats américains dans la région du Golfe pour préparer une attaque contre l'Iran. Maintenant, au sein de l'administration de Trump, donc on a le président, mais on a également Mike Pompeo qui est un faucon viscéralement opposé aux Iraniens, qui a déjà fait part de sa volonté que ce régime iranien s'effondre. Et derrière, on a John Bolton, lui qui, avant d'être nommé conseiller à la sécurité nationale, participait à des rassemblements à Paris, à Villepinte, des Moudjahidines du peuple, une secte islamo-marxiste, où il appelait ouvertement au renversement des mollahs, je cite, l'année prochaine, rendez-vous l'été prochain à Téhéran.
Pour mettre effectivement les Moudjahidines du peuple, c'était ça sa stratégie, en tout cas à la tête de l'Iran. Vous le disiez, ça vient des États-Unis pour l'instant, et on a le sentiment, y compris d'ailleurs depuis l'année dernière au fond, et même récemment lorsqu'il donne les fameux 60 jours à l'Europe, que le président iranien, lui, freine des cas de fer. En gros, il laisse toujours des portes ouvertes. Est-ce que c'est la bonne lecture ou pas ?
Oui, il laisse des portes ouvertes. En même temps, il n'a pas vraiment le choix. Il faut savoir que donc il y a un accord sur le nucléaire qui a été conclu. Pourquoi ? Parce qu'on ne faisait pas confiance à l'Iran. Donc sur la question du nucléaire, uniquement sur le nucléaire, comme le dit l'accord, il s'agissait pour l'Iran de ralentir considérablement son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions et donc de retombées économiques. Sauf que en se retirant de l'accord sur le nucléaire unilatéralement en mai 2018, Trump a tout d'abord effectué un pas illégal, alors qu'il y avait quand même d'autres signataires au sein de ce traité, mais surtout il a rétabli des sanctions qui fonctionnent aujourd'hui en Iran. C'est-à-dire que avec les sanctions rétablies sur le système bancaire, on ne peut plus commercer avec l'Iran. Avec les sanctions sur le pétrole, l'Iran ne peut plus vendre son or noir, c'est-à-dire 40% de son budget, 80% de ses exportations. Donc l'Iran, à ce niveau-là, est assiégé. Elle n'a plus la possibilité de vendre sa principale ressource. Et aujourd'hui, les autres signataires de l'accord qui veulent, eux, respecter l'accord ne peuvent pas s'opposer aux Américains. Donc c'est la situation pour laquelle l'Iran n'a pas véritablement de choix. Elle doit continuer, d'une certaine manière, à respecter cet accord de peur de perdre ses derniers alliés. Mais derrière, elle est vraiment dans une situation économique assez inextricable. On a vu justement l'Iran, dernièrement, mettre fin justement à la limitation d'enrichissement, en tout cas des réserves d'uranium, des recherches pour le réacteur à eau lourde. Mais bon, on est encore dans une palette qui est offerte aux Iraniens, mais la vérité c'est qu'ils sont assez acculés aujourd'hui.
Alors Armin Arefi, vous le disiez, ce que cherchent les Américains, c'est de les mettre à genoux, et en effet pour l'instant en tout cas les sanctions fonctionnent. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui en Iran? On dit, c'est aussi en partie ce que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre, on est dans une vraie cocotte minute dans ce pays-là. Quelle est l'étincelle qui ferait qu'à un moment, y compris dans la rue iranienne, on dirait ça suffit, maintenant stop? Et qu'est-ce que ça veut dire ce stop-là? Quelle est l'étincelle qui monte pour qu'on passe à la phase supérieure qui là pourrait être beaucoup plus dangereuse?
Alors, ce qui est très intéressant, justement, c'est ce que je note dans mon livre En printemps à Téhéran, c'est que, vu de Paris, on pourrait se dire, d'ailleurs on n'aurait pas forcément tort, que ceux qui ont détruit l'accord, qui est en état de mort clinique, et ceux justement qui nous ont poussés dans cette crise, nous, c'est-à-dire nous, occidentaux, français et grandes puissances, ce sont les Américains. Sauf qu'à Téhéran, ce qui est très intéressant, c'est quand on interroge la population iranienne, elle nous répond « Mais Trump, lui au moins, pense à sa population, c'est America ». Make America great again, America first. Nous, les mollahs, ne pensent pas à nous. Nous, justement, les mollahs, ils s'occupent à payer des milices chiites, ils font la guerre en Syrie. Ça, cela ne nous concerne
J'allais
pas.
Vous poser la question, du coup, on en veut plus au président iranien, on en veut plus au dirigeant iranien, on va dire plutôt.
Tout d'abord au président iranien qui n'a pas su gérer cette crise, et on en veut surtout au régime dans son ensemble, parce que derrière la question économique, aujourd'hui il y a une crise monumentale en Iran, une économie en récession pour la seconde année consécutive,
une inflation démente.
Il faut savoir justement qu'il y a donc l'inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 51% d'après les chiffres les prévisions du FMI. Mais aujourd'hui, quand on parle à la population en Iran, on veut avant tout au mollah, et c'est d'ailleurs là-dessus que Trump insiste, met l'accent, met sous pression les Iraniens, en tout cas les dirigeants iraniens, pour qu'ils cèdent et reviennent à la table de négociation. Le problème, c'est que, vu ce qui s'est passé, vu le retrait unilatéral des Américains, je doute que, en tout cas avec Donald Trump, les Iraniens, en tout cas la République islamique, reviennent à la table de négociation.
Mais est-ce qu'il peut y avoir une sorte de soulèvement interne, du coup, puisque vous dites qu'au fond, on en veut plus au mollah qu'on en veut à Trump? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose aujourd'hui dans la rue iranienne?
Le mécontentement a toujours été énorme en Iran, vis-à-vis du gouvernement, mais surtout du régime dans son ensemble. Le problème, c'est que les Iraniens, aujourd'hui, un, n'ont pas d'alternative, c'est une réalité. Deux, il y a un appareil répressif redoutable de la part du régime qui n'a pas encore été déployés. Il y a des manifestations assez régulières en Iran, mais de petits nombres assez éparses, notamment de grèves dans le secteur des fonctionnaires, chez les ouvriers. Mais la réalité, c'est que les Iraniens, ils ont fait une révolution il y a 40 ans pour se débarrasser du Shah qui était un dictateur. Ils ont eu pire. Donc aujourd'hui, et puis derrière, ils ont eu le traumatisme de la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein soutenu à l'époque par l'ensemble de l'Occident. Donc il n'y a pas, en tout cas, de velléité, en tout cas, il y a un mécontentement qui est énorme. Il ne porte pas les régimes, en tout cas, une grande partie de la population ne porte pas le régime dans son cœur, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils seraient prêts à aller sacrifier leur vie dans la rue en sachant qu'ils ont face à eux quand même un régime redoutable et qui aujourd'hui a encore de quoi voir venir, ne serait-ce qu'au niveau des réserves d'argent qu'il a toujours.
Mais ça veut dire que le ras-le-bol, la fatigue interne, pour l'instant, tout ça, ça tient en fait, à l'intérieur de... Y compris les Iraniens ont encore de la ressource pour tenir, en attendant quoi d'ailleurs ?
Ils ont la ressource pour tenir. La question, c'est en attendant quoi déjà, c'est la bonne question. Ah ouais. Quelle est la véritable stratégie aux États-Unis? J'ai l'impression que du côté de John Bolton et de Mike Pompeo, on vise justement à faire pression sur le régime et sur la population, car c'est elle qui est avant tout touchée par les sanctions, pour que celle-ci se soulève et que le régime s'effondre. On n'en est pas là pour l'instant, même si à moyen terme, en l'absence, et c'est ça la clé, je pense, en Iran, l'absence de réformes démocratiques de fond, qui est, à mon avis, le facteur le plus menaçant pour les autorités iraniennes. Maintenant, dans l'état actuel des choses, on assiste à une paupérisation énorme de la classe moyenne en Iran, celle même qui manifestait en 2009 contre Mahmoud Ahmadinejad lors du mouvement vert, souvenez-vous. Et aujourd'hui, ce dont je peux témoigner, c'est que tous les Iraniens qu'ils peuvent, notamment cette jeunesse éduquée, ouverte sur l'Occident, elle s'en va, elle quitte le pays.
Il y a une autre manière de faire la guerre quand on est les États-Unis et quand on est l'Iran, c'est la guerre par proxy. Ça existe déjà, les uns alliés avec l'Arabie Saoudite, les uns et les autres d'ailleurs sur le terrain de guerre qu'est le Yémen. Est-ce que de ce point de vue-là, les sanctions américaines fonctionnent? Est-ce que les Iraniens ont autant la possibilité qu'ils l'avaient autrefois de soutenir leurs alliés dans la guerre au Yémen, mais de soutenir aussi leurs alliés du côté du Hezbollah par exemple, de soutenir leurs alliés dans la guerre en Syrie, enfin en tout cas ce qui reste de la guerre en Syrie aujourd'hui? Est-ce que de ce point de vue-là, là pour le coup, c'est réussi chez les Américains parce que l'influence iranienne est en train de tomber?
Pas du tout, pas du tout. Au niveau de l'influence iranienne, l'Iran est toujours aussi présent. Alors il faut savoir, l'Iran tout d'abord est toujours aussi présent auprès des milices chiites en Irak, auprès du gouvernement irakien qu'il soutient. D'ailleurs, grand cadeau fait à l'époque par George Bush aux Iraniens, leur donner un peu l'Irak sur un plateau. Au niveau de la Syrie, l'Iran est sorti vainqueur d'une certaine manière de la guerre en Syrie, entre guillemets, aux côtés de Bachar el-Assad. Au Liban, alors il faut savoir quand même que les sanctions iraniennes et surtout les sanctions qui visent le Hezbollah touchent ce mouvement libanais islamiste. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, justement, le rapport, les renseignements sur lesquels se basent les Américains pour envoyer un porte-avions, ce sont justement des informations qui font état d'une menace accrue d'ordre qui aurait été donné aux Iraniens justement de s'attaquer à des intérêts américains, à des soldats américains, de mettre des missiles. Il faut savoir que les Américains ont des renseignements selon lesquels les Iraniens, les gardiens de la révolution iranien, auraient placé des missiles sur des navires dans le golfe Persique. Moi, j'ai interrogé là-dessus des Iraniens qui m'ont dit d'une certaine manière, ils n'ont pas nié, ils m'ont dit, mais en même temps, écoutez, on est là, on a respecté un accord, les Américains en sortent, ils nous sanctionnent, on ne peut plus vendre notre pétrole, on est complètement assiégé, et vous pensez vraiment qu'on va rester là, tendre l'autre joue? Donc ça, c'est assez intéressant. Mais effectivement, au niveau du rôle déstabilisateur, car il faut dire qu'il est quand même assez déstabilisateur, notamment par la perception des pétromonarchies arabes sunnites du Golfe et d'Israël, l'Iran, non, n'a pas cessé ses activités, bien au contraire. L'Iran a l'habitude des sanctions, ça fait 40 ans que ce régime est sous sanctions, et c'est pas en raison de sanctions, d'une situation économique difficile qui vont mettre un terme à leurs agissements, qui est d'une certaine manière leur condition pour la survie. Parce que l'Iran, au-delà de leur programme balistique et de justement cette ingérence, cette guerre asymétrique qui mène à l'étranger, ils n'ont pas d'armes, ils ne peuvent pas acheter d'armes à la France, aux États-Unis et à d'autres acteurs. Donc c'est pour eux une condition de survie.
Donc Armin Arefi, ce sera la dernière question. Je vous écoute et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de statu quo. En fait, chacun joue avec l'autre, à celui qui criera le plus fort pour essayer de montrer son autorité, mais de part et d'autre, personne n'osera faire le pas qui nous emmène trop loin.
Alors, moi, je serais pas tout à fait d'accord en disant que chacun, effectivement, joue sa partition, mais on a quand même une administration Trump qui, depuis son retrait d'accord sur le nucléaire iranien, fait tout pour pousser l'Iran à la faute. Maintenant, la réalité, justement, c'est que l'Iran a de quoi voir venir et que l'Iran attend impatiemment les élections américaines de 2020 en espérant très fortement que ce soit un démocrate qui arrive à la présidence, ce qui n'est pas du tout garanti.
Et non seulement c'est pas garanti, mais qu'est-ce qu'il dit de toute façon? Est-ce qu'on est vraiment sûr que les démocrates, s'ils reviennent à la Maison-Blanche, reviendront sur l'accord iranien de toute façon? C'est certainement pas là-dessus qu'ils seront élus en tout cas.
Mais il y a également une autre inquiétude qui est celle justement du prochain président iranien. Force est de constater que le camp des modérés ou pseudo-modérés en Iran est extrêmement affaibli et qu'aujourd'hui les militaires iraniens et même le guide suprême, le véritable chef de l'État iranien, ne croient plus en la diplomatie parce qu'elle a montré justement que les Occidentaux, notamment les Américains, ne tenaient pas parole et que devant eux, les Européens n'avaient pas franchement voix au chapitre.
Ça veut dire que vous aurez l'occasion de revenir, Armin Arefi.
Je
merci
beaucoup. Pas, mais malheureusement.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. Je rappelle que votre dernier bouquin s'appelle Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, et c'est publié chez Plon. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Bénin avec des tonnes de noix de cajou, mais pas les noix. En fait, c'est leur coque dont vous allez découvrir ce qu'on en fait sous les radars. Et Hélène Roussel, ce soir, avec un coming out dans le sport indien qui fait beaucoup de bruit, avec Justin Bieber, qui malgré lui fait du tort à l'Islande. Le Monde selon Trump, tiens, justement, le voilà, et Grégory Phillips. Bonsoir, Grégory.
Bonsoir, Fabienne.
Avec, précisément, un Trump qui est sacrément en campagne pour 2020.
Oui, ça y est, c'est parti pour Trump. Lancement officiel de sa campagne, sans doute d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et puis, la course à l'investiture démocrate, elle est bel et bien lancée. On a suivi ce week-end en Pennsylvanie l'un des favoris qui s'appelle Joe Biden.
Oui, on verra ça ensemble tout à l'heure, le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Jean-Marc, c'est vrai qu'on voit se multiplier les manifestations pour le climat. Il y en a encore une vendredi prochain d'ailleurs. Mais vous, ce que vous voyez plutôt monter, c'est l'inverse, c'est le climato-scepticisme.
Mais oui, quelle urgence climatique, je vous le demande. À la veille des européennes, le climato-scepticisme est en train de devenir un argument électoral des partis populistes.
Allez, à tout à l'heure, autour de 18h55, le tour de la planète n'est pas fini. Ne bougez pas, il passe par l'Allemagne avec les Fool's Garden et leur Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen.
Le citronnier des Fool's Garden sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Герасмахиво копьё.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars ce soir, c'est donc Hélène Roussel. Hélène panique dans un village au Pakistan. Plus de 500 personnes testées séropositives en seulement 10 jours.
Oui, sur ces 500 habitants, plus de 400 sont des enfants. Ça se passe dans la région du Sindh, près de la ville de l'Arkana, dans l'est du pays. Un médecin pédiatre est soupçonné d'avoir inoculé le virus du sida en utilisant la même seringue encore et encore. Acte criminel ou négligence, le médecin en tout cas est aujourd'hui en prison et il affirme n'avoir eu aucune mauvaise intention. En attendant, c'est tout tout un village qui défile au centre de dépistage. Des habitants pauvres, souvent démunis face à la maladie, à l'image de ces deux mamans que nos confrères de France 24 ont pu interviewer.
J'ai fait tester ma fille à l'hôpital de l'Arcana. Ils ont confirmé qu'elle était séropositive. Ça pourrait être contagieux pour tous mes enfants. Mon mari et moi, on est négatifs, mais ma fille a le virus du VIH.
J'ai 5 autres enfants. Je ne suis pas capable de comprendre ce que je dois faire. Je ne suis pas capable de comprendre.
L'accès à l'information sur le virus, l'accès au traitement aussi, ce sont les nouveaux défis du Pakistan, car dans ce pays, le virus du sida se propage de façon inquiétante ces derniers temps. 20 000 nouveaux cas recensés pour la seule année 2017. Le rythme de propagation est aussi l'un des plus rapides de toute l'Asie, nous dit l'ONU. Comment l'expliquer? Eh bien, la population augmente rapidement au Pakistan et les infrastructures médicales, elles, ne suivent pas. Et c'est le tapis rouge pour les médecins charlatans. Il serait 600 000 dans tout le pays, des médecins qui, par exemple, pour économiser de l'argent, utilise plusieurs fois la même seringue. Cette pratique serait responsable de 40% des cas de VIH au Pakistan.
Allez, on passe chez le voisin en Inde avec, pour la première fois, une athlète qui fait son coming out.
Oui, la sprinteuse Dyuti Chand a rendu publique son homosexualité hier. Ça nous paraît banal, en Inde, pays ultra conservateur.
Chez les sportifs,
comme
pas
le
tant
savez,
chez nous non plus d'ailleurs.
Pas tant, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Bon bref, en Inde en tout cas, ça l'est encore moins. Le pays a dépénalisé l'homosexualité, certes, mais c'était en septembre dernier, autant dire hier. Et c'est bien d'ailleurs cette décision historique qui a donné du courage à Dyuti Chand pour se lancer. C'est sûr que ce n'est pas auprès de ses parents qu'elle risquait de le trouver. Ce courage, sa mère a menacé de la calomnier. Mais Dyuti Chand a aussi un autre passé de combattante. Médaillée d'argent aux Jeux Asiatiques en Indonésie l'année dernière, pour en arriver là, elle a dû mener une très longue bataille juridique. Suspendue pour hyperandrogénie, elle a saisi le tribunal arbitral du sport. Elle a gagné ensuite le droit de concourir à nouveau. Hyperandrogénie, ça vous rappelle Fabienne, la sud-africaine Caster Semenya, contrainte de faire baisser son taux de testostérone par la Fédération d'athlétisme et qui elle aussi est en pleine bagarre actuellement. Elle a, elle, bien sûr, le soutien de cette indienne Dyuti Chand. On ne sera pas étonné.
Allez, on termine plus légèrement en Islande, où un certain Justin Bieber a laissé quelques traces.
Oui, depuis que le chanteur canadien est passé dans ce canyon du sud du pays pour tourner un clip, les touristes veulent faire comme lui, et en masse. C'est pas très bon pour la nature tout ça, c'est ce qu'on va voir. Mais il faut dire d'abord que les images du clip sont superbes. Falaises, prairies vertes fluo, sources, cascades. Et comment résister quand on voit Justin Bieber se rouler dans la mousse herbeuse, tel un bienheureux, ou encore se baigner dans les sources au milieu des glaces, torse nu, s'il vous plaît, faut bien exhiber ses tatouages. Dans I'll Show You, c'est le titre de la chanson, je te montrerai, Bieber nous montre surtout un petit coin de paradis. My life is a movie. Un petit coin de paradis, ce canyon islandais, oui, jusqu'à ce que Bieber débarque. Depuis, la fréquentation du site est montée de 50 à 80%, 300 000 visiteurs l'an dernier, ça ne pouvait pas durer. L'agence islandaise de l'environnement a fait fermer le canyon jusqu'au dégel, c'est-à-dire le mois prochain. Alors Fabienne, vous allez me demander le nom de ce canyon islandais, je le
sais. Mais
sens.
Je vous le demande.
Allez, je me lance. Vjadrargljufur. Okay. Profitez-en, je ne dirai pas deux fois.
Okay.
Un canyon magnifique qu'on ne peut plus voir, donc sauf si on est prêt, Fabienne, à écouter ça.
En répétant Vjadrargljufur.
Longtemps.
Allez, plusieurs
à demain.
Fois.
À demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
C'est au Bénin que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Le Bénin, le saviez-vous, est l'un des principaux producteurs de noix de cajou. En Afrique, 100 000 tonnes pour les deux dernières campagnes. Or, jusque-là, seule l'amande, la partie qu'on mange, qui représente 22% de la noix, était gardée et vendue dans un marché d'ailleurs très concurrentiel, dominé par l'Inde. Aujourd'hui, la coque est utilisée pour faire un baume, utilisé dans l'industrie des peintures et dans l'aéronautique. Bonsoir Delphine Bousquet.
Bonsoir Fabienne.
Delphine, ce baume, on l'appelle CNSL pour Cashew Nuts Shell Liquid. Une usine, Fludor, qui transforme les noix de cajou, s'est engagée dans cette production. C'est là que vous nous emmenez, ça se passe à Kana, au centre du Bénin.
C'est l'effervescence à l'usine. La saison de l'anacarde bat son plein depuis mi-mars. En 3 mois, tout est récolté et vendu. Chaque jour, des semi-remorques apportent des sacs en toile de jute remplis de noix de cajou. Aboubakar Maro supervise le déchargement d'un camion venu du centre du pays, l'une des principales zones de production.
Si les manœuvres sont nombreuses, au plus une heure de temps, ça finit. On peut connaître le nombre de sacs, à peu près 450 sacs.
Ça représente plus de 30 tonnes. Après le séchage au soleil, c'est la transformation dans une vaste unité. Les machines de cuisson et de décortiquage tournent à plein régime, mais elles ne peuvent pas tout faire. 600 femmes originaires des environs travaillent ici. On suit une ouvrière avec Barbara Macon, responsable du programme de durabilité des filières.
Ici, elle est chargée d'ouvrir avec la pince, de séparer la coque et la noix. Elle met la noix dans ce bol et elle met la coque dans l'autre. Dans les coques, c'est elle qui va partir dans l'unité qui permet d'obtenir le BOM, le CNSL.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des femmes ici?
Elles ont l'œil pour mieux faire le travail parce qu'elles sont méticuleuses et attentives.
Ensuite, les amandes sont dépelliculées, emballées et exportées. Les coques, quant à elles, sont transportées vers une autre unité. Elles contiennent une huile corrosive qui donne le baume de cajou ou CNSL. Un énorme tas attend devant une machine de plusieurs mètres de haut. Au bout de la chaîne, on obtient un liquide noir. Explication avec Nikes Degla, le responsable.
Bon, la production de l'huile CNSL s'effectue en deux étapes. La première étape consiste à extraire l'huile par le biais de deux presse. Maintenant, la deuxième étape consiste à soustraire l'humidité par le biais du chauffage. C'est pour avoir une bonne qualité de l'huile. Et à partir de l'huile, là, ils font les peintures, les vernis, les patins de frein. On utilise ça aussi dans l'industrie et pharmaceutique, dans l'industrie aéronautique aussi.
Il y a 22% d'huile dans la coque, c'est beaucoup. Ce sont des Indiens spécialistes de cette technique qui sont venus installer les équipements et qui dirigent l'usine. Vinod Kumar est ingénieur.
So presently we are producing 10 tons of oil per day.
Actuellement, on produit 10 tonnes d'huile par jour. Pour ça, on a besoin de 30 à 40 tonnes de coque. Notre objectif est de monter à 15 tonnes. Notre capacité maximale est de prendre toutes les coques du Bénin. On exporte en Inde, au Japon, en Chine, là où les industries qui utilisent le CNSL se développent. Il y a plein de nouvelles technologies autour du CNSL, donc c'est un très bon marché.
L'usine traite ses coques, plus celles qu'elle achète auprès des deux autres transformateurs du pays. Depuis les bureaux, Roland Ribou, patron franco-béninois du groupe, peut observer le balai des camions. La fabrication de CNSL a été lancée l'an dernier, d'abord pour répondre à un problème environnemental.
Souvent, on brûle les coques, on les enterre, mais c'est très mauvais pour le sol, pour la pollution atmosphérique également si on les brûle. Et produire quelque chose qu'ensuite nous allons devoir répandre dans l'atmosphère ou dans le sol, c'est quelque chose qui nous a rebuté aussitôt. Et donc nous avons cherché la technologie et nous l'avons trouvée. Ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que bien évidemment, grâce à cela, nous pouvons brûler les coques pour faire de l'énergie.
Avant, les Indiens venaient seulement pour acheter les noix brutes et les envoyer chez eux. Aujourd'hui, le Bénin essaye de garder sa valeur ajoutée. Pour Barbara Macon, c'est bien que ça change.
Le cajou n'est pas notre produit de consommation de base. Donc habituellement, on ne sait pas ce que devient le cajou. Donc les producteurs commencent à se rendre compte que ce n'est pas seulement les noix que les gens recherchent au niveau du cajou. Il y a d'autres types de produits.
Dernière question, est-ce que ça veut dire que le Bénin est en train de découvrir tous les usages de la noix de cajou?
Évidemment. Et c'est pour ça que le gouvernement en a fait l'un de ses secteurs prioritaires parce que c'est une filière porteuse. Lorsqu'il y a des plantations de cajou, c'est des milliers d'emplois. Il faut installer beaucoup d'usines pour transformer parce que même s'il est pris au niveau mondial, on baisse, mais la demande elle est croissante. Mais également parce qu'on peut développer des produits dérivés et ça fait que l'économie est prospère.
D'ailleurs, il y a une autre partie du cajou qu'on valorise, c'est la pomme, le pédoncule jaune ou rouge, charnu, suspendu au-dessus de la noix. On l'a laissé pourrir dans les champs. Désormais, la production de jus de fruits est en train de se développer.
Voilà, tout est bon dans la noix de cajou. C'est ce qu'on apprend grâce à Delphine Bousquet. Merci beaucoup Delphine, à très vite. Allez, les specials, quoi. Ceux de notre enfance, revisités 2019, c'est dans la playlist de France Inter. Votre formi, cette saison, et c'est d'actualité. Choses sur France Inter. Vote for me. Tiens, en voilà un autre qui cherche des votes.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump et Grégory Philips, saison 3. Avant de partir pour le Japon, Grégory, à la fin de la semaine, votre président est en Pennsylvanie pour un meeting Make America Great Again. Donc ça y est, Trump est dans la course pour la présidentielle 2020, Grégory.
Oui, alors c'est vrai que le président va de plus en plus sur le terrain et en particulier dans ces états ouvriers comme la Pennsylvanie qu'il avait remporté en 2016 et qui sera peut-être encore la clé de la présidentielle de l'an prochain. Officiellement, Donald Trump n'est pas encore en campagne, mais si on en croit les informations du site Axios, généralement très bien renseigné sur la politique américaine, eh bien le lancement officiel de sa campagne pourrait avoir lieu autour du 16 juin prochain, c'est-à-dire 4 ans jour pour jour après sa désormais fameuse conférence de presse à la Trump Tower de New York, celle durant laquelle Donald Trump avait annoncé sa candidature pour 2016. Et puis le 16 juin, Fabienne, ça permettrait aussi d'éclipser un peu le premier débat des démocrates qui aura lieu 10 jours plus tard à Miami.
Alors avant cela, quand même, il faudra que le parti démocrate désigne celui ou celle qui affrontera Trump. Donc en 2020, on l'a déjà dit, il y a une bonne vingtaine de candidats démocrates sur la ligne de départ. Et pour l'instant, le favori dans les sondages, c'est l'ancien vice-président d'Obama, c'est Joe Biden. Et vous l'avez suivi, Grégory, vous avez été en Pennsylvanie avec lui samedi.
Oui, premier gros meeting de Joe Biden chez lui en Pennsylvanie, dans le berceau de la démocratie américaine qu'est Philadelphie. Alors oui, l'ancien vice-président est largement en tête des sondages, mais évidemment la route est encore très longue jusqu'à l'investiture. Oui, il a 76 ans, mais samedi il a paru en forme. Discours très rassembleur, appel à battre Trump qu'il a rebaptisé le diviseur en chef. Et puis surtout, Joe Biden a fait de nombreuses fois référence à Barack Obama. Alors vous me direz, Fabienne, est-ce que chez les électeurs démocrates, la nostalgie des années Obama suffira à mobiliser, on verra bien. En tout cas, samedi à Philadelphie, on a croisé quelqu'un qui a beaucoup travaillé auprès de Barack Obama. Il s'appelle Anthony Blinken, il a été au Conseil national de sécurité, il a été numéro 2 du département d'État, et voici ce qu'il nous a dit du candidat Biden, le choix de la raison.
C'est le choix de la raison, et bon, à voir si il y a un peu de patience aussi. Si vous voulez, les gens connaissent très bien l'ancien vice-président, et c'est pas une question de nostalgie non plus, c'est quelqu'un qu'on connaît et on a le sentiment qu'on peut lui faire confiance. Et dans un temps aussi difficile que le temps actuel, Ça, c'est un atout très important.
Anthony Blinken qui va s'engager derrière Joe Biden et le conseiller sur les questions internationales. Troisième fois, Fabienne, que Biden cherche à obtenir cette investiture démocrate. Première fois en 88, évidemment ça remonte un peu. Ouais. À l'époque, c'est Dukakis qui avait été nommé. Et puis 2008, et là c'est un certain Barack Obama qui avait été investi et Biden était devenu son vice-président pendant 8 ans.
Alors il y a un autre démocrate qui s'est lancé dans la course, c'est le dernier qui est parti, c'est le maire de New York, Bill de Blasio. Pas très haut dans les sondages, on va dire pour l'instant, mais en tout cas une stratégie tapée très dure sur Donald Trump.
Oui, alors pas très haut dans les sondages et ça vole pas très haut entre les deux hommes qui évidemment se connaissent très bien, le maire de New York et l'ancien promoteur immobilier devenu président. La semaine passée, dans un message vidéo enregistré à bord d'Air Force One, Trump a dit que la candidature de Blasio était, je cite, une blague, qu'il était le pire maire de toute l'histoire de New York et de Blasio a donc répondu au président.
Hey, Dan l'escroc, j'ai vu ta vidéo et t'as vraiment l'air fatigué. Et puis, il faut que tu relises tes fiches. En réalité, la criminalité diminue à New York depuis 5 ans. Et l'économie de la ville est en plein boom. Jamais eu autant de création d'emplois. Donc, tes infos ne sont pas fiables. Je pense que tu dois te reposer un peu. Tu en as besoin avant l'élection. On vient te chercher.
Voilà, Fabienne, elle promet cette campagne. Bill de Blasio, maire assez impopulaire dans sa ville de New York. Et d'ailleurs, le tabloïd New York Post a publié la semaine dernière 2 unes consécutives absolument assassines contre sa candidature. La première, de Blasio va être président, accompagné d'un photomontage de New Yorkais hilar. Et la seconde, le lendemain, tout le monde déteste Bill. Le voilà en tout cas rhabillé pour l'hiver par Trump et par l'un des principaux quotidiens new-yorkais.
Voilà, on verra quelle est la bonne stratégie pour battre Trump. En effet, du côté des démocrates, y aller sur le même ton, on n'est pas sûr. Enfin, on verra ça ensemble. Vous remettrez votre petit compteur à jour pour la prochaine fois, Grégory.
533 jours avant la présidentielle américaine.
Faire, hein. Je l'aurai un jour. Allez, Greg, bonne semaine.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le thème de l'écologie et du climat s'est imposé comme l'un des sujets majeurs des élections européennes. Mais à 5 jours du scrutin, vous dites attention, à l'inverse, le climato-scepticisme, donc la négation de l'urgence climatique, progresse tout autant et même en train de devenir un argument de campagne. C'est votre monde à l'envers.
Alors sur la route de l'Europe, on va commencer par un petit détour à l'autre bout du monde, en Australie. Pourquoi ? Parce que l'Australie votait ce week-end et elle a vécu une première mondiale. D'abord, la campagne électorale a eu pour thème principal, précisément, la question climatique. Avant l'économie, avant l'immigration, avant la sécurité, c'est sans précédent. D'ailleurs, 90% des jeunes Australiens réclament des mesures d'urgence pour le climat. Il faut dire que le pays est aux premières loges. Pour la 6e année consécutive, il vient de vivre un été austral caniculaire, vagues de sécheresse, feux de forêt, inondations brutales, etc. L'opposition de centre-gauche avait donc fait de ce sujet son étendard en proposant un plan massif de développement des énergies renouvelables et une conversion rapide vers la voiture électrique. Tous les sondages donnaient l'opposition favorite. Sauf qu'ils se sont tous trompés. C'est le Premier ministre conservateur sortant Scott Morrison qui s'est imposé. Particularité, c'est un climato-sceptique assumé. Il est proche des industriels du charbon. Il vient d'autoriser l'ouverture de la plus grande mine jamais exploitée là-bas. Il n'a aucun problème avec le fait que l'Australie est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par nombre d'habitants. Et il a gagné en dénonçant les suppressions d'emplois qu'engendrerait la conversion aux renouvelables. Donc c'est en cela aussi que c'est une première. Le climato-scepticisme revendiqué peut être un argument électoral payant.
Mais alors quel lien avec les élections européennes ?
Ben parce que le même phénomène peut s'y reproduire partiellement. Vous allez me dire, mais en Europe, ce qu'on repère sur le sujet, c'est plutôt la poussée écologiste, avec le mouvement des jeunes pour le climat, initié par Greta Thunberg, nouvelle manifestation vendredi prochain, les bons scores attendus pour les Verts dans certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique. Sauf que dans le même temps, les climato-sceptiques poussent aussi. Et fait nouveau, comme en Australie, ce climato-scepticisme est revendiqué. Je ne parle pas là du vote discret contre les émissions de CO2 comme le vote des députés français du Rassemblement National au Parlement européen. Non, je parle d'un climato-scepticisme brandi ostensiblement comme un thème électoral. Et c'est ce que font désormais plusieurs partis populistes de droite nationaliste. Par exemple, le UKIP au Royaume-Uni, le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet aux Pays-Bas, qui pourrait bien déboucher en tête là-bas dimanche soir, et plus encore l'AFD en Allemagne, qui a carrément diffusé pour ces élections européennes des affiches en faveur du diesel. Tenez, je vous en montre une ici en studio. Dieselritten, ça veut dire sauver le diesel. Ou bien des slogans en faveur de la poursuite de l'exploitation du charbon. L'extrême droite allemande y voit un très bon argument de campagne, presque aussi efficace que la question de l'immigration, et elle qualifie l'urgence climatique d'hystérie, quitte à nier l'évidence scientifique, mais peu importe, ça paye électoralement.
Alors pourquoi ça paye? Pourquoi ça paierait?
Parce qu'il y a derrière un raisonnement séduisant, un concept simple, efficace, en adéquation avec le logiciel des partis qui se revendiquent du populisme. C'est quoi ce raisonnement? C'est que l'écologie est une affaire des élites bobos qui font payer la facture aux petites gens. Exemple type, la hausse du diesel. C'est exactement le type de raisonnement déjà conduit par Donald Trump pour commenter par exemple la crise des gilets jaunes en France. Même logiciel chez Steve Bannon, dont d'ailleurs, soit dit en passant, on se demande pourquoi on lui accorde tant d'importance vu qu'il ne représente rien ou pas grand-chose, mais là je m'égare. Dans ce raisonnement, la lutte contre l'urgence climatique a tous les défauts. 1. Son coût économique est trop élevé avec le risque de suppression d'emplois dans toute l'industrie liée aux énergies fossiles. 2. C'est une atteinte aux libertés individuelles. Je veux pouvoir rouler au diesel ou me chauffer au gaz si j'ai envie. 3. C'est une capitulation géopolitique face au gros pollueur qu'est la Chine. Alors pour détricoter cet argumentaire, l'écologie doit encore faire la démonstration qu'elle fait payer les gros pollueurs plutôt que les petits, le haut de l'échelle plus que le bas. Sinon, le climato-scepticisme aura de beaux jours électoraux devant lui.
Et merci beaucoup Jean-Marc Fourré. Le Monde à l'envers, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Nous, on reste ensemble pour le journal et puis le téléphone sonne.